Jusqu'à la fin du mois de janvier 2012, vous pouvez visiter dans le grand hall du Conseil général de Montauban la rétrospective consacrée à Flavio De Favori. Une soixantaine d'œuvres sont exposées là et retracent le parcours de toute une vie. Je vous propose une rencontre ordinaire au cœur de cette exposition avec Flavio De Favori.
C'est une espèce de rétrospective, hein ? C'est le travail de toute une vie. Disons que là, c'est les fonds d'atelier. Hein ? J'ai fait une exposition avec ce que j'ai à la maison. Je suis un sculpteur, pas du dernier cri. Hein ? Je ne fais pas la ferraille. Je suis resté figuratif parce que mon âme est là. Hein ? Et alors, je suis encore de ces gens qui travaillaient du bois, du plâtre, de la pierre, le bronze, la terre cuite. J'étais un peu le généraliste de la sculpture. Voilà.
Laquelle de ces œuvres est la plus ancienne ?
La plus ancienne, alors. Je cherche une des plus anciennes. Je la cherche. Vous voyez, nous déambulons, nous cherchons. Tiens, la voilà. C'est le portrait de ma femme. Nous étions fiancés. Vous voyez, nous l'avons là, ici. Donc, c'est le buste de mon épouse. Là, voilà. 1953. Vous voyez, on était encore fiancés. Hein ? Ça, bien sûr, ça n'a jamais été avant, vous le comprenez. Voilà, pour moi, c'est toute une vie, là. Hein ? C'est une femme que j'aimais beaucoup, qui malheureusement vient de me quitter. Et on se sent bien seul. Voilà. Donc, c'est l'œuvre la plus ancienne.
Techniquement, c'est du modelage ?
Alors, c'est du modelage, hein, qui est après traduit en plâtre et qui sert en principe à être traduit en bronze. Voilà. Donc, c'est le stade intermédiaire entre l'étude et le final. Hein. Voilà, c'est la plus ancienne.
Juste sur la droite, oui. Il y a une autre sculpture, alors mais là, qui est faite dans du bois.
Ça, c'est du bois. Voilà.
Et le bois, c'est un matériau important pour vous parce que votre papa était ébéniste et vous avez commencé comme ça.
Tout à fait, oui, parce que j'ai commencé. Je prenais des chutes chez mon père et avec le couteau, je savais les affûter. Et je sculptais beaucoup parce que quand j'étais gamin, j'adorais les avions. Vous voyez ? Et je taillais des avions, hein, que je connaissais. J'avais des mémoires visuelles très bonnes. C'est mes premières sculptures. J'avais 7, 8, 10 ans, 12 ans, 11 ans. Vous voyez, j'ai commencé par ça. J'étais pas mon copieur. J'avais une mémoire visuelle, j'avais de l'imagination. Et j'arrivais à faire beaucoup de dessins. Vous voyez, alors notamment, pendant la guerre, je faisais beaucoup de dessins patriotiques. Vous voyez, contre les Allemands. Hein ? Alors quand le régime a changé, après Pétain, là, je faisais des dessins subversifs. Vous voyez, avec les Anglais en train de détruire. Bon, l'Institut faisait toujours ça, malheureux, déchireux. Vous voyez, il ne fallait pas faire de dessins. Voilà, c'est pour vous dire que ça m'intéressait. Vous voyez ?
Rencontre ordinaire avec Flavio De Favori.
J'étais un bon élève. Bon, mais j'étais l'aîné de 4 enfants. Puis, dans les familles italiennes, si on ne suit pas, on ne travaille pas. On n'a pas travaillé. Moi, pour mon père, je m'étais toujours amusé. Je me suis toujours amusé. Je n'ai jamais travaillé. Qu'est-ce qu'il fait ce petit ? Il s'amuse. C'est un concept de la vie. Voilà. Bon, et alors donc, c'est un peu plus tard, alors je suis rentré chez mon père, il m'a dit, tu viendras travailler avec moi. Bon, on ne discutait pas.
Quel âge vous aviez là ?
J'avais 14 ans, ouais. Pour le certificat. Bon, alors, tu viendras travailler. Et alors donc, je suis allé travailler chez mon père. Bon. Alors là, on l'a mené, il y avait dans le temps, en montant 4 sculpteurs sur bois qui faisaient la décoration de meubles. Et c'est là où j'ai vu que ça m'intéressait. Puis en plus, je vois, je reste chez le sculpteur qui lui donc voit que ça m'intéresse. Il ne me dit rien. La première fois, je reste demi-heure. Je papote, je discute. Quand je revenais, je me faisais engueuler par mon père. Et qu'est-ce que t'as foutu ? Et, bon, bref. Et alors, on a mené ça avec un charreton. Et c'était moi l'âne. Je tirais le charreton. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. C'était moi le bourricot. Bon, bref. Et alors, la première fois, je suis resté demi-heure. Je le regardais travailler. Je regardais les outils. Alors, voilà. Bon. Puis, quelques mois après, j'ai ramené autre chose. Et puis là, je suis resté un peu longtemps. Il commence à me dire, bon, maintenant, tu t'en vas.
Parce qu'en fait, vous étiez en train de regarder son savoir-faire.
J'étais en train de lui voler son métier. Mon père m'avait toujours dit, tu sais, un métier, ça ne s'apprend pas, ça se vole. Je ne mente pas. Hein ? C'est un peu ça. Et il faut avoir faim. Après, il faut des outils, mais je n'avais pas des outils. Parce que la sculpture sur bois, ça demande un outillage très, très spécialisé. Les formes de gouges, les formes. Voilà. Alors on ne trouvait rien parce que c'était la guerre. Ou juste à la fin de la guerre. Et il n'y avait rien, on ne trouvait rien. Je me suis forgé mes outils. Parce qu'il y avait un professeur de forge, de fer, qui dessinait très bien et qui me demandait toujours, qui s'appelait Joseph Barthélémy, qui voyait, je dessinais. Petit, fais-moi voir tes dessins. Et c'est comme ça que je lui ai dit, mais vous ne pourriez pas me forger des outils ? Il n'avait pas envie de me les faire. Puis, il devait dire, bon, ça me domaine. Je lui ai dit, mais si je les fais ? Je lui ai dit, vous me les trempez ? Il m'a dit, si tu les fais, je te les tremperai. Et je les ai faits. Je suis allé les porter. C'était au cours municipaux, au cours professionnel du soir. Et alors, j'ai porté les outils. Il a fait voir à tout le monde. Il lui a dit, regardez ce que fait un boisier. Parce que j'étais un boisier.
Hein ? Travailler le bois, quoi.
C'est que je dois faire de moi, vous voyez, il me les a trempés. Et un peu mes outils, ce sont ceux-là. Bon, voilà. J'ai commencé à faire des fleurs, hein, comme je voyais faire. Puis après, j'ai adapté. Après, j'ai fait du style, mais que j'ai toujours volé. J'étais pas tout à fait d'accord avec mon père. Parce que, en plus, il n'appréciait pas ce que je faisais. Oh, le petit vous fera des fleurs par-dessus le marché.
Flavio De Faveri.
C'était par-dessus le marché. Je trouvais qu'on galonnait un peu mon boulot. Vous voyez, je veux dire, bon, je passe. Et puis un jour, j'avais 18 ans. Et alors, parce que quand je sculptais pour moi. Mais il fallait que je le fasse en dehors de mon boulot. Et chez moi, c'était 7 heures le soir. Donc, je mangeais en vitesse à midi pour avoir au moins d'une heure à deux. Ou, des fois, le dimanche matin, enfin bon. Et alors, donc, arrive un jour un type, et j'étais en train de finir un bas-relief. Donc, je m'étais inspiré de ce fameux Joseph Barthélémy, qui, à me faire, faisait des choses extraordinaires. Et alors, c'était 2 heures. Ce type arrive à 2 heures. C'est un grand neuf. Et il discute avec mon père. Alors, c'est un marchand de vernis et couleurs. Et moi, je profite pour gagner 5 minutes pour travailler sur mon truc, pour le faire avancer. Je rognais un peu les heures, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que mon père était... J'étais l'aîné, mais il a été très dur avec moi, très sévère. Et alors, à un moment, ce gars, il vient à mon établi, et puis il s'adresse à mon père, il lui dit, « Vous avez un ouvrier, il est drôlement bon. » Alors mon père, hein, il lui dit, « Oui. » Il lui dit, « Mais... c'est pas mon ouvrier, c'est mon fils. » Alors là, il était très fier. Et alors, il se tourne vers moi, il se tourne vers lui, et il lui dit, « Mais monsieur, vous avez un fils qui fait ça ?» Il lui a demandé, « Et quelle école il a fait ?» Mon père, lui, il a pas fait d'école. Il me dit, mais il faut que vous alliez aux Beaux-Arts, il me dit. Alors là, ça, parce qu'il y a un moment que je n'étais pas d'accord avec mon père. Je lui disais, tu sais, papa, un jour, je m'en irai. Il me dit, quand tu n'es pas content, tu t'en vas. Bon, voilà. Et ce qui fait que j'allais discuter avec ma mère, et nous sommes allés voir à l'école des Beaux-Arts à Toulouse, et là, a commencé le début de ma carrière artistique, parce que je suis tombé chez un directeur qui a été très compréhensif, qui était sculpteur, et qui s'est avéré être comme un second père très efficace.
Pourquoi les gens disent toujours, plus tard quand tu seras grand, moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève de réaliser le rêve, aujourd'hui et maintenant, de n'être plus un enfant. Je patiente doucement, que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit morceau de monde. Pourquoi les gens disent toujours, plus tard quand tu seras grand, toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand? Comment mesurer l'écart entre toi et les grands? Car sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps. On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure, mais tu vois le temps que ça prend, une heure assise sur un banc. Pourquoi les gens disent toujours, plus tard quand tu seras grand, moi qui grandis tous les jours, je suis là et pourtant. Si je voyageais dans le temps, j'irais voir mes grands-parents. Quand ils mesuraient trois pommes, qu'ils n'étaient que petits d'hommes. J'aimerais tant pouvoir me faire une enfance buissonnière. Est-ce que demain, c'est dimanche, j'attends les mains sur les hanches? Pourquoi les gens disent toujours, plus tard quand tu seras grand, je ne grandis plus tous les jours depuis quelque temps. Quand je croise un copain de classe, je me dis c'est un vieux qui passe. Et parfois je m'extasie sur la grandeur des petits. On laisse filer les calendes, il arrive qu'on se demande, est-ce qu'un jour j'ai été grand quand on a les cheveux blancs? Deux danseurs d'étranges affaires, d'un bout à l'autre de l'existence. Si le temps passé reste éphémère, le temps qui s'écoule est immense. Pourquoi les gens disent toujours, plus tard quand on sera grand, on se répète ça tous les jours depuis la nuit des temps.
Il y en a qui adorent les femmes. Vous voyez ? Moi, j'adore la femme. Et je disais toujours, et ça, les gens ne le comprennent pas. Moi, j'avais une femme, j'étais heureux. Je n'avais pas besoin de papillonner.
Flavio De Favoris.
Alors, j'ai toujours dit, je collectionne beaucoup de choses, mais pas la femme des autres. Vous voyez ? C'est une chose que. C'est comme ça. Hein ? Alors, parce que je suis peut-être. Je suis pas mine de rien, je suis un type très strict. Vous voyez, je suis resté un peu. Connaissais quelque part, oui, j'avais une femme qui me rendait heureux. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous étions heureux. Voilà. Alors, ce qui ne m'empêchait pas de faire des femmes comme la femme éternelle. Voilà. Et d'ailleurs, on retrouve dans les portraits des statues, c'est souvent mes filles. Vous voyez, on retrouve des airs de famille. Vous n'y pouvez rien.
Alors, ce sont souvent aussi des corps de femmes très athlétiques. Qui font penser, qui font penser parfois à ces sculptures des pays de l'Est.
On peut pas faire des femmes fil de fer. Hein, un volume, il faut que ça tienne dans l'espace. Vous comprenez? Puis il faut pas oublier qu'il y a eu Mariol. Il y a Michel-Ange, qu'on le veuille ou pas. Et puis alors il y a Phidias. Et puis tous les autres.
Visite guidée de l'exposition qui lui est consacrée avec Flavio De Favoris. Rencontre ordinaire.
Alors celle-là, c'est la plaine. Ça, c'est l'original qui aurait dû être à Montauban, place, vous voyez, la chambre de commerce, là où il y a les jets d'eau, elle devait aller là. La municipalité Garrigue l'avait voté à l'unanimité. Puis, ça a changé de municipalité, et ça a été complètement rejeté. Ce qui fait qu'il me reste, donc, c'est l'œuvre originale, vous voyez, et c'est pratiquement la plus grande œuvre que j'ai faite. Vous voyez, il y a de la force. Hein. J'ai des filles, si vous voyez, j'ai des filles qui sont comme ça.
Là-bas, il y a une période de votre vie où vous avez essayé un autre style, très cubique.
Oui, alors, bon, vous savez bien que en 68, il y a eu des choses. En 68, le directeur, dont on avait parlé auparavant, m'avait dit, Flavio, il m'a dit, vous savez, il va y avoir un concours de professeurs de sculpture pour les préparatoires. Il me dit, je vous y verrai très bien. Donc, je l'avais retenu. Et puis, j'ai présenté un concours. Bon. Puis, en fait, ça n'a pas marché. Alors, j'ai eu une grande chance de ne pas être nommé. Parce que ça a été la révolution à l'école. Alors, mes copains me disent, là, il y a tout un tas de gauchistes qui sont montés. On a cassé tous les plâtres, tout ce qui était figuratif. Hein, tous les plâtres romains, grecs, on a tout cassé. Plus de dessins, plus...
Ici, à Montauban.
Non, à Toulouse. Oui, non, à Montauban. C'était discret. Bon, et alors, mes copains me disent, tu comprends, hein, maintenant, c'est fini tout ça, il faut abandonner tout ça. Le révolutionnaire, hein, où on efface tout, hein, et on recommence.
On arrête le figuratif et on invente autre chose.
Voilà. Alors, il me dit, tu t'habilles pas comme en 1900. Bon, alors j'ai essayé de faire quelques trucs, notamment celle-ci.
On s'en rapproche.
Voilà, oui. Vous voyez ? Alors, j'ai fait ça. J'ai fait ça dans l'esprit des purées. Vous voyez ? J'en ai fait une dizaine dans ce goût-là, que j'ai cassé même.
Oui.
Que j'ai cassé. Voilà. Alors, vous voyez, c'est déjà une autre démarche. C'est déjà... Bon. Alors, ça, c'était en 68. Et puis, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis, je me suis
appelé... Je vais essayer de le décrire pour que les auditeurs comprennent, parce qu'on fait de la radio. Ça ressemble quand même. On retrouve votre style, mais on est sur quelque chose de très épuré. Je ne sais pas si on peut dire cubique, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose.
Non, mais c'est plus épuré. Mais il n'y a plus la sensibilité de la peau. Il n'y a plus le charme d'un visage.
C'est comme une esquisse, quoi.
Vous le voyez. Hein,
c'est stylisé.
Vous voyez, les jambes, hein, ça fait un peu bigorlement clume. Bon, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis, il y a la clinique Boyer qui m'a demandé de faire la statue. Et alors, on a repris ça, mais j'ai dit quand même, alors, j'ai fait une tête, je l'ai faite plus figurative, j'ai même mis des pieds, et j'ai même mis des bras, ce qui fait que vous avez la statue de Boyer et la clinique Boyer. Et c'est la résultante de ce travail. Voilà. Vous voyez? Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que moi, je n'y retrouvais pas le galbe d'une cuisse. Le galbe d'une épaule, la rondeur d'une fesse, vous voyez, la douceur d'un visage, la tendresse d'un regard, le charnel d'une bouche, vous voyez. Donc, et je dis, vous ferez ce que vous voulez, moi je continue mon petit bonhomme de chemin. Vous comprenez? Parce qu'à cette époque-là, vous savez, c'était dur, hein, parce qu'on vous prenait pour une andouille. Vous étiez un dinosaure. Hein? Alors, il faut résister à tout ça. Puis, petit à petit, ici, les gens ont été plus compréhensifs. Vous voyez? Parce que si vous passiez par Paris, ce qui était figuratif, c'était systématiquement refusé.
Est-ce que c'est parce que c'était difficile, est-ce que c'est parce que c'était cette époque-là que vous avez préféré embrasser une carrière de professeur de dessin? D'être artiste.
Oui, non, mais ça, alors, c'est un peu plus tôt. Alors, disons que, en 63, il se trouve que j'avais 2 enfants. J'étais l'artiste libre, sans assurance, je payais les allocations familiales, je payais les impôts, mais vous n'avez droit à rien. Vous comprenez? Alors, vous avez un gamin qui était déjà le bouc, qui était avec moi à l'atelier. Et alors, il avait 4 ans, 5 ans. Et il me disait, papa, pourquoi tout le monde a les voitures et pas toi? Dis donc, papa, pourquoi tout le monde va en vacances et pas nous? Vous comprenez? Vous commencez à vous poser des questions. Parce que quand vous êtes artiste, si vous n'avez pas d'enfant, ça va tout seul. Mais quand on a une famille, je t'ai marié, puis c'est ce que femme veut, Dieu le veut. Ça veut tout dire. Hein,
hein. Donc il a fallu faire un choix.
Et alors, il se présente dans ce poste de professeur de dessin. Et j'ai été mis, donc j'ai concouru. Et j'avais quelques titres, on commençait à me connaître sur Montauban, ce qui fait que j'ai été pris. Et ça m'a permis de suite d'avoir une vie sociale plus équilibrée.
Rencontre ordinaire avec Flavio De Faveri, au milieu de ses œuvres.
Et moi, on me met sur une île déserte. Je suis persuadé qu'au bout de 6 mois, il y aura des statues quelque part.
Vous continuez aujourd'hui de sculpter?
Non, je ne peux plus.
Dessiner un peu?
Oui, mais je ne peux plus. Depuis que j'ai perdu mon petit oiseau, ma muse est partie, elle m'a quitté. Là. Après une longue souffrance, ça m'a épuisé. J'étais en état demi-dépressif. Ça a été une perte énorme. J'avais un couple où on a bagarré dans la vie. Vous savez ce que ça veut dire, hein? On a bagarré inconditionnellement. Ça. Alors maintenant, on voit les couples qui se séparent, qui ne peuvent plus se supporter 2 ans, 3 ans. Enfin, moi, vous devez dire que je suis vraiment un vieux crouton. Mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que celui qui n'a pas connu ça, je crois que c'est un pauvre type. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je voulais qu'il y avait beaucoup d'émotions. Vous savez, un couple qui reste uni toute une vie, qui n'a pas gagné, qui a fait des sacrifices. Ça en a fait des sacrifices. Et puis que vous voyez partir comme ça, et que vous restez. L'essentiel, c'est... Alors, l'essentiel, c'est qu'on laisse quelque chose. Vous comprenez?
Ah ben là, pour le coup... Hein?
Oui, pour le coup, on en est... ils en sont même embêtés. Parce que où c'est qu'on va mettre tout ça? Parce que c'est ça le problème. Voyez-vous, on laisse des choses. Mais après, qu'est-ce que ça va devenir? On verra bien. Enfin, de toute façon, le bois, ça se brûle. Ça se bouffe par les vers. La pierre, ça peut se conserver. On peut, avec un marteau, enlever le nez. Bon. Mais alors là où, ce sera le mot de la fin, hein, mais là où, quand on fait un petit bronze, hein, c'est la matière reine. D'ailleurs, vous voyez, il y en a 2 là. Hein. Et alors, c'est peut-être le comble de l'orgueil. Ou peut-être le comble de la perpétuité, de l'éternel. Dans 4000 ans, s'il y a encore des hommes sur la Terre, ou dans 2000 ans, et on va gratter, ils arriveront avec des poils à foutre, ils vont découvrir un gars qui s'appelait De Faveri. Je suis optimiste, jusque-là. Pour le reste, hein, vous savez, quand vous allez à Olympie, que vous voyez l'atelier de Phidias, quelle émotion! Et que vous allez dans l'atelier de Phidias, qui a été longtemps d'ailleurs une église orthodoxe. Hein? Oui, c'est pas possible. Oui, et Phidias est là. Hein? Je suis pas Phidias. Hein? Oula. Je sais où je suis. Hein? Je suis Flavio De Faveri de Montauban.
c'était une rencontre ordinaire avec Monsieur Flavio De Faveri, sculpteur montalbanais. Merci à vous, Monsieur De Faveri, de m'avoir reçu au cœur de cette rétrospective qui vous est consacrée et qui est encore visible jusqu'à la fin du mois de janvier dans le grand hall du Conseil Général à Montauban. Je vous signale l'ouvrage de Roland Garrigue consacré à Flavio De Faveri, Flavio De Faveri, un dessin sculpté, aux éditions du Réveil. Les morceaux de musique que vous avez entendus pendant cette rencontre sont sortis d'un album en sourdine pour tout ce qui est du jazz. L'album en sourdine paru chez Night and Day en 2000 avec Alain Boucher, Bernard Lara, Thierry Ollet, Christian Bonnet et Georges Bonfils à la contrebasse qui était un élève de Monsieur De Faveri. Et merci à lui d'avoir été à l'origine de cette belle rencontre. La chanson qui a coupé notre entretien en deux est sortie d'un album d'Aldebert, Enfantillage. C'est un duo avec Maxime Le Forestier, intitulé « Plus tard, quand tu seras grand ».